Adolf Nissenholz était un enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Il témoigne aujourd'hui au travers de divers travaux, comme des livres, des pièces de théâtre, des essais. Nous l'avions d'ailleurs reçu pour sa pièce « Mère de guerre » il y a quelques semaines à peine. Il nous parle aujourd'hui du plurilinguisme dans la littérature à l'occasion de la publication de son livre « Boubélé, l'enfant à l'ombre », faisant partie intégrante de l'ouvrage collectif « L'enfant plurilingue dans la littérature ». On l'écoute, Adolf Nissenholz. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Adolf Nissenholz.
Bonjour Lucie Gilson.
Vous êtes l'auteur de Boubélé, l'enfant à l'ombre, un roman autobiographique. Donc, alors tout d'abord, c'est un titre assez atypique et cela nous donne envie d'en savoir un peu plus. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ?
Mais c'est un titre d'affection en hébreu, en yiddish, et qui est un mot assez complexe en ce sens que il y a une étymologie qui est fondée sur Bubi en allemand. Bubi, c'est le petit garçon. Donc Boubélé, c'est un diminutif de ce mot-là en yiddish. Mais il y a aussi, on accroche aussi ce mot à Bouba, qui est grand-mère en yiddish ou dans les langues slaves. Et ce qui fait que dans ce mot, vous avez une sorte de relation intergénérationnelle c'est très fort. C'est un mot peut-être très, enfin, c'est un mot yiddish qui
quasiment identitaire beaucoup. Finalement.
Oui, et donc c'est peut-être un des premiers mots que j'ai entendu lire par ma mère.
C'est un article sur le roman qui a été publié dans un ouvrage collectif qui s'appelle L'enfant plurilingue, c'est ça, en littérature. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet essai collectif ?
Un colloque avait été organisé à l'université de Caen en Normandie par Louise Sampagnet et Marie Courgue, qui se sont spécialisés dans la littérature de l'enfant plurilingue, l'enfant plurilingue en littérature donc. Et elles sont parties de l'étude notamment de Nabokov, qui lui avait été élevé en russe, et puis aussi on lui a appris pendant son enfance le français. Et finalement, arrivé aux États-Unis, il écrit toute son œuvre en anglais. Donc il y a là un problème de celui qui écrit en anglais et qui a été élevé dans une autre langue. Est-ce que cette autre langue ou ces autres langues se retrouvent en dessous de la langue d'écriture ? Alors, dans mon cas, c'est posé un peu la même question. C'est pour ça que j'avais proposé d'intervenir. On a une histoire et puis on utilise une langue et on utilise la langue qui nous semble la plus, enfin, dans laquelle on se sent le mieux.
En quoi c'est important pour vous de transmettre cette histoire et d'autant plus important de continuer à la republier, en fait?
Mon projet n'était pas de raconter mon histoire, parce qu'il y en a des tonnes, étant donné qu'il y a autant d'histoires que de survivants à la Shoah. Mais ce dont moi j'étais fort conscient, c'est que pour que le témoignage passe auprès de tiers, de gens qui n'ont pas connu cela ou bien qui s'y intéressent, et il faut passer par l'émotion. En général, les récits qui commencent par « je suis né à tel endroit, en telle année, sauvé par monsieur et madame un tel », enfin, ce sont des faits et c'est extrêmement important d'avoir ces témoignages-là. Mais en général, il ne touche pas forcément le cœur des lecteurs. Donc, j'ai mis très longtemps à trouver le moyen de le faire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait passer par la rhétorique, c'est-à-dire trouver des images, par l'imagination. Et avec l'imagination, les gens peuvent se rendre compte par leur propre vécu, alors en lisant, en recréant cette vie en eux, ce qui s'est passé. Et je crois que un témoignage doit toucher finalement les cœurs et doit toucher l'esprit. C'est pour ça que j'ai pris comme point de vue celui d'un petit garçon. Et c'est donc pas l'adulte qui parle de l'enfant, mais c'est l'enfant qui est mis au premier plan et c'est l'adulte qui lui, enfin qui le sert et qui et ce qui fait qu'on voit un enfant jouer pendant la guerre, il est très ludique et ça fait que il y a une relation assez forte qui peut s'installer et une sorte d'identification. Identification, parce que l'enfant est dans une situation triste, mais on le voit quand même jouer, on le voit quand même être un enfant. Et là aussi, il y a dans cette ambiguïté, souvent d'ailleurs pour que on puisse toucher autrui, il faut être dans le vrai, et le vrai, la vérité du vécu, c'est être continuellement dans des contradictions.
Un beau témoignage de résilience finalement.
Voilà, l'écriture m'a permis de parfaire, si je peux dire, la résilience et de parce que je l'ai écrit pendant très longtemps. J'ai commencé en 80 quand mes sauveurs sont décédés et ça a été publié donc un quart du siècle après. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'avais mis tant de temps, parfois pendant des années, je n'écrivais rien du tout à ce sujet. Mais en fait, je restais en contact alors avec mes sauveurs et à travers eux, avec mes parents. Donc, je continuais à leur rendre hommage comme ça.
Alors, votre ouvrage a également été traduit en plusieurs langues, en italien et en néerlandais, et aussi en hébreu. Pourquoi le choix de ces trois langues-là ?
Dans mon cas, j'ai perdu une langue après une langue maternelle après l'autre, puisque quand j'ai été placé vers 3 ans dans une famille bruxelloise qui parlait le flamand bruxellois, mais c'est devenu alors ma nouvelle langue maternelle. Et ce fait que après la guerre, j'ai été arraché à cette famille. On m'a donc coupé de cette famille qui m'aimait beaucoup et que j'adorais aussi. Et là, je suis tombé alors dans un milieu francophone, et c'est finalement dans le français que j'ai écrit. Mais donc, j'ai perdu une langue après l'autre. Chaque fois, une première fois, je perds les parents, puis je perds des parents de substitution qui étaient mes parrains de guerre. Mais vous savez, par exemple, Proust, il disait que les plus beaux livres ont été écrits dans une langue étrangère. Et c'est Proust qui dit ça, qui est un des maîtres de la littérature en France. Mais en fait, quand on écrit en littérature, on crée une langue. On crée sa langue. Et il se fait que il y avait une étudiante en traductologie à Trieste qui était tombée sur mon livre qui venait de paraître. Et elle a voulu utiliser ce livre-là comme exercice de traduction pour avoir son diplôme. Donc ça a été son mémoire de fin d'études. Et alors, ça a cheminé, ce projet a cheminé. Il y a eu un éditeur qui était d'accord de le publier, qui a revu un peu la traduction. Donc ça, c'est la première aventure. Mais il se fait que j'ai pu lire le manuscrit, je l'ai lu avec un gros dictionnaire. Chaque fois qu'il y avait un mot qui me semblait pas pertinent, je le notais. Et j'ai été travailler avec la traductrice et d'ailleurs avec son père pour leur signaler ce qui me semblait devoir être retravaillé. Donc ils ont fait ça. Et pour le néerlandais, mais là, c'est un excellent poète flamand qui vit toujours et qui est traducteur notamment de la poésie de Verhaeren, et donc est un traducteur vraiment très chevronné là, et qui m'a proposé de traduire Bouble l'enfant à l'ombre en Bouble Skadu Kind, donc en néerlandais. Et là aussi, j'ai pu suivre la traduction parce qu'au fur et à mesure qu'il travaillait, il m'envoyait des pages, je les relisais et on a eu un dialogue très fructueux à ce sujet. Pour la traduction en néerlandais et en italien, ça a été publié. D'ailleurs, ça a été publié quand j'ai pu relire en italien mon texte. Parfois, j'en étais jaloux parce que je trouvais que ça sonnait tellement mieux. Ça chante en italien directement et c'est directement très affectif. Alors, la traduction en néerlandais a aussi été très, très. Enfin, là, c'est un poète qui l'a traduite et qui a donc mis en évidence que mon texte avait une dimension poétique. Pour la traduction en hébreu, il se fait que j'étais en Israël et il y avait une voisine qui s'est entichée de mon livre écrit en français et qui m'a mis en rapport avec une traductrice. Et alors elles ont travaillé à deux, elles ont travaillé à deux, et puis on a même travaillé à trois par Zoom, notamment durant le Covid. Mais alors pour moi c'était évidemment important de faire cette traduction en néerlandais parce que c'est comme si je retournais à la langue à ma deuxième langue maternelle de la guerre. Donc ça, c'était un peu un retour, puisque dans le roman, je fais, enfin, roman, c'est autobiographique dont les faits sont réels. C'est mes parents de guerre parlaient le néerlandais, donc c'est comme si je leur redonnais la langue ou que je retrouvais ma langue avec eux. Pour l'hébreu, mais là, c'est comme si je retrouvais un peu la langue de mes ancêtres. Parce que, au fond, de toutes mes langues, il y a peut-être l'hébreu dont je ne savais pas que je la connaissais comme ça. Voilà.
Eh ben, je vous remercie, Adolphe Nissenholz. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Bublé, l'enfant à l'ombre, un roman qui est d'inspiration autobiographique, donc, et qui vient de reparaître au sein d'un ouvrage collectif qui s'appelle L'enfant plurilingue en littérature. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous remercie, Lucie Gilson.